Laus Kujalnak. Guy Chabot de Jarnac était un jeune courtisan de la cour de François Ier, beau-frère de la duchesse d'Étampes, favorite du vieux roi qui ressentait pour elle la plus vive passion. Or, la belle duchesse était depuis longtemps l'objet de la haine d'une femme bien puissante auprès du dauphin, la célèbre Diane de Poitiers, qui avait juré sa perte. Le dauphin, Henri II, instrument docile de cette intrigue, laissa tomber un jour, à propos de la dépense excessive que faisait Jarnac, qui était sans fortune, un mot outrageant qui fut relevé, commenté et répété par toute la cour. Le jeune homme, ne pouvant dévorer cette honte, déclara hautement que celui qui avait semé ce bruit était un calomniateur et un lâche. L'insulte allait droit au prince, car tout le monde savait de qui le propos émanait. Dès ce moment, Jarnac fut considéré comme perdu sans ressources. Henri, grand amateur de lutte et d'escrime, avait autour de lui une nuée de bretteurs et de spadassins renommés. On en choisit un d'une force prodigieuse et d'une adresse sans égale, duelliste consommé, bravache et insolent, redouté de tous et accoutumé à jouer sa vie par intérêt ou par orgueil. Il se nommait François de Vivonne de la Châtaigneraie. Personne ne pouvait lui être opposé, soit dans les luttes, soit dans les joutes des tournois. Il saisissait un taureau par les cornes et l'arrêtait dans sa course. Tel était le dogue de combat qu'on lâcha sur ce pauvre Jarnac. Cadet de famille et sans fortune, nourri par le dauphin, la Châtaigneraie lui appartenait corps et âme. Sa vanité s'arrangeait d'ailleurs d'une aventure qui passionnait toute la cour. On n'eut même, pour ainsi dire, pas besoin de le lancer. Dès qu'il eut connaissance de l'affaire, il la fit sienne, soutint effrontément que c'était à lui que Jarnac avait fait cette confidence déshonorante, et fit un tel éclat que François Ier dut intervenir et défendit le duel. Mais à peine Henri II était-il monté sur le trône, qu'il rendit un acte délibéré en conseil, en vertu duquel il était ordonné au sire de Jarnac de répondre au défi de la Châtaigneraie. On espérait que Jarnac, se voyant poursuivi à mort par d'aussi puissants ennemis, s'humilierait, se couvrirait d'opprobre pour sauver sa vie et se livrerait ainsi flétri aux risées de la cour et aux insultes de ses ennemis. Aussi, tout fut préparé pour donner à l'affaire une publicité immense. Le combat, annoncé 2 mois à l'avance, devait avoir lieu sur le plateau de Saint-Germain. Jarnac ne se faisait aucune illusion. Il voyait bien quelle main meurtrière on avait armée contre lui, et il s'était préparé à la mort par de grandes dévotions. Néanmoins, pour ne rien négliger, il avait pris des leçons d'un maître d'escrime italien, renommé pour ses bottes secrètes, et il se conduisit en tout d'après ses conseils. Enfin, le duel eut lieu le 10 juillet 1547. Dès le matin, la foule inondait l'admirable plateau de Saint-Germain. Les lices étaient ouvertes. Le roi, Catherine de Médicis et toute la cour était sur les estrades. Un concours immense de spectateurs, marchands, bourgeois, étudiants, tous mécontents de la cour et favorablement disposés pour Jarnac, ne dissimulaient point leurs préférences. La Châtaigneraie se présenta dans un appareil princier, escorté de 300 gentilshommes portant ses couleurs, blanc et incarnat. Il se croyait tellement assuré de son triomphe, ne craignant son ennemi non plus que le long lion fait le chien, que la tête lui en tournait, et qu'il allait partout, invitant les plus grands seigneurs et les princes du sang au splendide souper qu'il avait ordonné pour le soir, et dont Henri II faisait les frais. Le pauvre Jarnac, condamné et tué d'avance, sentait bien qu'ayant l'homme du roi pour adversaire, une victoire lui coûterait presque aussi cher que la défaite. Cependant, il ne se découragea pas et se montra disposé à faire quoi que ce soit de lâche ou d'indigne. Enfin, vers 7 heures du soir, les deux adversaires entrent en lice et marchent l'un contre l'autre. 30 000 cœurs battent à l'unisson. Un silence de mort plane sur la foule. Ils s'abordent dans un choc furieux et les coups se succèdent avec rapidité. Le combat durait depuis quelques moments lorsque Jarnac, par une feinte d'une hardiesse extrême avec un tel adversaire, se découvre entièrement et lui coupe le jarret du tranchant de son épée. La châtaigneraie chancelle et tombe. Il expirait le soir même, après avoir arraché de rage et de dépit l'appareil qui couvrait sa blessure. Le peuple de Paris rapporta de cette émouvante journée un mot dont il fit un proverbe, qui lui rappelait une humiliation et une défaite de la royauté, le coup de Jarnac. Depuis, on a désigné par ces mots, au physique ou dans tout autre ordre d'idée, un coup décisif et imprévu porté à un adversaire. La conduite diplomatique d'Octave porta donc ses fruits et ses prévisions s'accomplirent avec une justesse qui prouvait l'infaillibilité de son calcul. Malgré la finesse de son esprit, Clémence n'évita pas l'espèce de coup de Jarnac dont son amant l'avait frappé. Charles de Bernard, Gerfaut. Ainsi, monsieur le marquis, tandis que je sacrifiais aux soins de vos intérêts mes goûts, mes instincts, jusqu'à la droiture de mon caractère, vous, au mépris de la foi jurée, vous tramiez contre moi la plus noire des perfidies. Vous complotiez de livrer à notre ennemi la fiancée de mon fils et la place que je défendais. Vous méditiez de porter un coup de Jarnac au champion qu'il combattait pour vous. Jules Sandeau, Mademoiselle de la Séglière. D'aventure, est-ce que vous avez des desseins, mon endroit? Et auriez-vous monté un coup de Jarnac à ma vertu? Voudriez-vous faire ma conquête? Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin.